Vous êtes sur RTL.
En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine.
Yvan, t'aurais pas oublié de retirer ton masque par hasard, on comprend rien de ce que tu nous dis.
Ah oui, mais excuse-moi Damien, je me suis habitué au masque moi. Bon allez, un petit coup de gel et j'y retourne.
On défait le monde dans RTL Soir, épisode 41. Voici Céline Landreau, Stéphane Carpentier, Laurent Tessier, Brice Dugénie, Damien Béchiot et Cyprien Sini.
Ah bah ça fait plaisir, vous m'avez déjà oublié. Alors je vous rassure, je vous écoute et je vous dis peut-être même à tout à l'heure.
Non mais c'est pas possible. Il est là même quand il est pas là, c'est Greg Caranonier. Un autre de réalisateurs du grand direct de ce soir jusqu'à 20h. Soyez tous les bienvenus, on va défaire le monde. Actualité décryptée avec rigueur et bonne humeur, vous l'avez compris, c'est le numéro 41. Nous sommes le 19 juin de cette année 2020. Vous réagissez tout en direct, le compte Twitter, la page Facebook à disposition. Les amis, c'est parti. Voici le sommaire avec Cyprien.
Télétravail, c'est le mot à la mode du moment. Révélation pour certains, ou vaste fumisterie pour les autres. On s'est demandé, chiffre à l'appui, si cette nouvelle façon de travailler pouvait vraiment être bénéfique pour l'ensemble de la société. En 2020, 52 000 soldats américains, soit l'équivalent de la population d'Ajaccio ou d'Annecy, sont en Allemagne. Pourquoi, comment l'armée américaine occupe-t-elle encore l'Europe ? Dans Défait le Monde, vos rendez-vous du vendredi soir avec le grand perdant, le loser de la semaine. Et cette semaine, Céline, vous tirez sur l'ambulance.
Oui, on va parler de la Coupe de la Ligue humiliée par Fort Boyard.
Dans votre billet retour, Brice, plongé en eau trouble à La Réunion.
Oui, les requins sont-ils toujours une menace pour les baigneurs et les surfeurs ?
D'ici 20h, vous aurez bien sûr vos trois infos pour briller au dîner. L'histoire la plus craquante de la semaine, dans l'instant trop mignon, le palmarès de vos appels au 32-10 dans le Pronomètre. Et comme tous les vendredis, le cadeau. Et si vous rêvez de piloter une Ferrari, de sauter à l'élastique ou juste de faire de l'acrobranche, c'est
tout
pas
en
mal.
Même temps.
Voilà. Restez bien à l'écoute, hein. Le jeu, ce sera comme d'habitude vers 19h40. On défait le monde, épisode 41. C'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Je peux rajouter qu'il y a un président du jury ce soir pour les infos pour briller au dîner. Comme toutes les semaines, on a eu, vous le savez, Julien Courbet, Thomas Soto, Georges Lang, Ophélie Meunier ces derniers vendredis. Ce soir, c'est un homme. Et pas des moindres, il sera à l'écoute à partir de tout de suite maintenant. Bah, le suspense est au
rendez-vous. La pression.
Le surf, c'est tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi, 6h40, juste avant 8h avec Cyprien. Le surf de la semaine, c'est le vendredi, rien que pour nous le soir. Les temps forts sonores de ces derniers jours.
Et cette semaine, à moins de 10 jours du deuxième tour des municipales, on a eu droit au débat entre les candidates pour la mairie de Paris, Anne Hidalgo et surtout Rachida Dati et Agnès Buzyn, qui visiblement avaient envie d'en découdre. Attention, punchline de la soirée.
Ça arrange mal Agnès Buzyn, de ne pas parler d'écologie, donc c'est pour ça.
Agnès... Non mais, un peu de respect, non, je Madame Buzyn. Si vous voulez, on peut parler du Covid.
Oh, si vous voulez, on peut parler du Covid.
Je sais. Là, il répond rien. Je l'ai cassé, j'ai gagné.
Oui, enfin, n'exagérons rien. C'était intéressant comme débat. Apaisé, constructif.
Non, c'est pas très rapide parce que quand vous.
Non.
Je veux dire, écoutez, allez-y. C'est une atteinte grave.
S'il vous plaît.
Non, un peu de décence.
Non, c'est
parce que je vais parler de valeur.
Moi,
la
bloque.
C'est bon, on comprend rien. C'est bon. Sinon, cette semaine, le Conseil constitutionnel a pulvérisé la loi sur la lutte contre la haine sur Internet de Laetitia Avia. Alors, du coup, la députée sur RTL a bien expliqué que c'était pas du tout parce qu'elle était mal préparée. Non.
Est-ce que vous vous dites finalement que vous ne l'avez pas assez bien préparé, ce texte ?
Je ne dirais pas cela. Vous savez, on est sur la construction d'un mécanisme qui est inédit. Mmh. Il n'existe nulle part dans le monde.
Bah oui, c'est complètement inédit. Ça n'existe nulle part, ce genre de loi. Mais alors, c'est marrant, parce que le HuffPost a remarqué qu'il y a un an, quand on lui disait que ça avait l'air un peu bancal, elle expliquait...
C'est un délai aussi qui existe dans la loi allemande. Moi, j'assume d'avoir pris cette loi allemande comme point de départ des travaux.
Mais je croyais que ça n'existait nulle part. Bon, sauf en Allemagne alors. Bon, sinon, sur ce débat-là, à la mairie de Paris, là, comment ça se passe ? Ça avance ?
Je vous interromps, je vous signale aussi.
Non, madame.
Sinon, vous n'aurez pas le temps de conclure. Anne Hidalgo, pardon, argument d'autorité, c'est le chrono qui parle.
Non, madame, c'est pas mon matin dans mes valeurs.
Je précise que tout ça n'est pas monté. Ça s'est vraiment passé comme ça.
Vraiment ça, quoi.
Ouais, c'était comme ça. Non, c'est pas mal, ça avance. Je sens qu'on progresse. Bon, à part ça, tout va toujours aussi bien dans la tête de Donald Trump, puisque cette semaine, il a félicité les chercheurs américains pour la découverte d'un vaccin contre le sida. Si, si.
The people, the best, the smartest, the most brilliant anywhere, and they've come up with the AIDS vaccine.
Voilà, the AIDS vaccines. Alors, on rappelle évidemment que le vaccin contre le sida n'existe toujours pas. À part ça, triste nouvelle cette semaine, vous vous souvenez du coq Maurice. Vous savez, ce coq qui avait dû passer en justice parce qu'il chantait trop souvent et qui avait gagné
Le coq Maurice, il va pouvoir rechanter. Il faut que dans toutes les campagnes, les bruits redeviennent normaux.
Ouais, bon, bah, il chantera plus, hein, puisqu'il est malheureusement mort. Hein, une épidémie de coryza qui lui a été fatale. La bonne nouvelle, c'est que sa maîtresse a un autre coq et qu'elle l'a appelé Maurice II. Sinon, un petit coup de... Je vous jure que c'est vrai, tout ça. Sinon, un petit coup de débat des municipales à Paris, là. Ça va, ça s'est calmé?
Allez, vous avez encore une minute chacune. Une minute chacune, mesdames. Mesdames, s'il vous plaît. Vous allez encore avoir une minute. Madame Dati.
Madame Dati.
Madame Buzyn, Madame Dati.
Madame Dati. Encore une minute pour conclure. Encore une minute pour conclure chacune.
Madame Dati.
Je vous jure que c'est bon, parce que comme ça, il n'y a toujours pas de montage. Hein. La politique comme on l'aime. Hein. Enfin, on a beaucoup célébré le général de Gaulle cette semaine pour les 80 ans de l'appel du 18 juin. De Gaulle, personnage tellement emblématique de la République. La preuve, j'ai remis la main, un peu par hasard, sur cette pépite de 1986. Philippe Manœuvre interroge Mick Jagger. On est en 86 et...
Est-ce que tu sais qui est le président en ce moment en France ?
De Gaulle, non ?
Ouais, c'est sympa, ça mange pas de pain. Vive Mick Jagger, maire de Paris. Et la semaine prochaine.
Vous avez pas de cœur hein, pour l'histoire du coq.
C'est vrai. Ah non, mais c'est terrible. Ah non, c'est
Maurice.
Bah, je vous suis informé.
Surf de la semaine dans Maurice On défait 2. Le monde. Ouais. Et, c'est 19h24.
On défait le monde sur RTL.
On en vient donc, les amis, à la première grosse info de cette semaine qui est consacrée, Cyprien, au télétravail.
Ouais, c'est l'une des découvertes de cette étrange période. Le télétravail à très très grande échelle. Et alors, on parle beaucoup sur l'aspect bien-être ou pas, ou mal-être des salariés pendant le télétravail. Bon, bah, dans On défait le monde, on a voulu prendre le sujet autrement. Et Laurent, vous êtes demandé si à long terme, pour l'ensemble de la société, il y avait vraiment un bénéfice à généraliser ce télétravail.
Alors, déjà, on va mettre de côté le télétravail que vous avez connu hein, depuis le confinement, où là chacun s'est adapté. Non, je veux vraiment vous présenter le vrai télétravail, sa véritable organisation. Il y a quelques règles qui sont instaurées. Benoît Serre est le vice-président de l'Association nationale des DRH.
C'est la règle du volontariat. Un salarié ne peut pas se voir imposer le télétravail. La deuxième règle, c'est qu'il doit être disponible chez lui dans les horaires normaux d'ouverture de l'entreprise. Vous n'avez pas une liberté horaire totale. Vous pouvez vous organiser comme vous voulez, mais vous devez être joignable à tout moment.
Et sur les moyens pour travailler, l'entreprise doit doter le salarié, par exemple, d'un ordinateur portable. Et dans beaucoup de sociétés, dans le cadre des accords qui ont pu être passés, il y a une indemnité qui permet de compenser une partie des dépenses pour la connexion Internet.
Et alors, quels sont les secteurs principalement concernés par
d'abord,
ça
vous avez le secteur des services bancaires, des assurances, du tourisme. Il y a aussi une nouvelle tendance, le télétravail pour les services clients en plateforme téléphonique. Des opérateurs pourront travailler depuis leur domicile.
Alors ça, Laurent, c'est les règles de base, mais pour instaurer le télétravail dans l'entreprise, comment ça se passe ?
Alors, vous avez trois manières aujourd'hui. Soit c'est le volontariat individuel, donc c'est un accord entre le salarié et le manager pour définir des jours par semaine ou par mois. Deuxième possibilité, l'entreprise a une charte de télétravail. Elle décrit les conditions, les gens s'inscrivent, mais ce n'est pas signé par les syndicats. Et une troisième méthode, décrite par Benoît Serre de l'NDRH.
On va sans doute voir de plus en plus dans les mois qui viennent, c'est un accord de télétravail passé avec les organisations syndicales qui permet d'encadrer les conditions, l'indemnisation, le nombre de jours, etc. etc.
Et c'est vraiment cet accord qui va se développer prochainement.
Bon, et maintenant qu'on a bien défini les règles du télétravail, c'est bien ou non de le généraliser ?
D'un côté, certains salariés sont ravis, d'autres détestent, mais pour l'économiste Nicolas Bouzou, l'entreprise a tout à y gagner.
Les premières études montrent que oui, le télétravail augmente en général la productivité des salariés, mais ça dépend vraiment du management, c'est-à-dire qu'il faut accepter au fond, de laisser les salariés travailler chez eux un peu tranquillement.
Autre point positif, la création aussi de nouveaux bassins d'emplois grâce au télétravail.
S'il s'agit de délocaliser des emplois de Paris vers des territoires qui ont connu de la désindustrialisation, par exemple, comme en province, bah, c'est quelque chose qui est très positif du point de vue économique. Donc le télétravail, ça élargit le bassin d'emploi en quelque sorte, et ça peut éventuellement permettre un rééquilibrage géographique des emplois.
Et l'entreprise peut réduire aussi sa surface immobilière. Certaines ont déjà commencé, c'est intéressant si le télétravail se fait au minimum 2 jours par semaine. Le gain immobilier est valable pour la région parisienne avec le prix, vous savez, du mètre carré élevé. Ah oui. Ailleurs, bon, c'est moins flagrant pour les entreprises parce que la pression économique est moins forte. Et qui dit télétravail dit aussi moins de personnes dans les transports publics, moins de personnes sur les routes, donc un impact pour l'environnement.
Et alors pourquoi le télétravail ne devrait pas se généraliser ?
Parce que le lieu de télétravail est un lieu d'échange. Le bureau, c'est aussi l'un des principaux endroits où les couples se rencontrent, ouais. Et se fait des amis. Bon. Et l'économiste Nicolas Bouzou me le confiait, la créativité est plus importante à son bureau. Mais plus de télétravail, attention, signifie moins de présence dans les commerces de centre-ville, moins de déjeuner entre collègues, moins de déjeuner d'affaires. Et Didier Chenet, c'est le président du GNI, le groupement national des indépendants, qui représente les restaurateurs et les hôteliers. Il n'y va va pas par quatre chemins.
Ça serait une catastrophe. C'est à 80%, voire 90% de notre chiffre d'affaires à midi. Les quartiers d'affaires, là, c'est carrément sinistré. Il y a un impact direct pour les professionnels de l'hôtellerie. Plus de séminaires, moins de congrès, bien sûr. Il arrivait souvent que l'on prolongeait ou on anticipait son voyage d'affaires par un petit séjour touristique, donc c'est une perte considérable.
Autre victime du télétravail, la restauration d'entreprise avec une baisse du taux de fréquentation, donc du négatif, du positif, mais aujourd'hui, 8 DRH sur 10 souhaitent pérenniser le travail à distance, mais pas à 100%.
Voilà la grosse info, la grosse enquête de Laurent Tessier en ce vendredi soir. Vous restez bien avec nous, c'est la première info pour briller au dîner, c'est Céline qui va s'y coller dans un instant.
Céline.
Et... Céline. Et le président du jury qui est à l'écoute, à tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde. Car.fr. RTL Soir, jusqu'à 20h. L'info pour briller au dîner.
Avec la petite musique qui va bien à 19h30.
C'est la dernière fois.
On en profite, ouais.
Eh oui,
parce que c'est l'été ce week-end.
Sans blague. première info.
Merci, c'est ça l'info pour briller.
Première info pour briller au dîner ce soir, c'est avec vous Céline, on vous écoute.
On a beaucoup parlé aérien cette semaine avec malheureusement les suppressions d'emplois annoncées chez Air France. Les compagnies qui savent d'ailleurs qu'elles auront moins de clients cet été que d'habitude. Ce soir, je vais vous parler du premier vol commercial et de son premier passager, Abraham Seafail, un Américain qui donc le 1er janvier 1914 est devenu le premier homme à acheter un billet pour un trajet en avion. Pour ça, il a quand même déboursé 400 $. En 1914, c'était assez énorme. Hein. 400 $ pour faire 35 km entre Saint-Pétersbourg, pas en Russie, mais en Floride, Saint-Pétersbourg donc, et Tampa, c'était un vol de 23 minutes dans un hydravion. Et à l'époque, il n'avait pas dépassé les 15 mètres d'altitude.
Voilà la première.
C'est hallucinant ça.
Ouais, c'est hallucinant.
400 $, ça vous parle vous.
Allez, non, c'est 15 mètres d'altitude. C'est 15 mètres d'altitude, c'est rien.
Céline Landreau pour la première info pour briller au dîner en ce vendredi soir.
RTL Soir, on défait le monde.
Vous réagissez, vous commentez, le compte Twitter à disposition, la page Facebook de l'émission, bien sûr, de ce numéro 41 avec la deuxième grosse info, Cyprien, consacrée aux Américains en Allemagne.
Oui, car cette semaine, il y a une sortie de Donald Trump qui nous a interpellés. Enfin, il n'y en a pas qu'une, mais celle-là particulièrement. Il menace les Allemands de vider les bases américaines situées sur leur territoire. Alors déjà, prise du génie, qu'est-ce qu'ils font encore en Allemagne, les soldats américains? C'est pas un pays occupé, l'Allemagne, ils sont indépendants.
Oui, mais c'est l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et donc de l'occupation alliée qui a été mise en place au moment de l'armistice. Les soldats américains sont donc présents sur le sol allemand depuis les années 40. Et au fil du temps, eh bien, ces bases, elles ont permis à Washington de garder une position stratégique pendant la guerre froide, au plus près de l'ennemi soviétique. Il y a eu jusqu'à 180 000 soldats américains avec leurs familles en Allemagne. Et donc aujourd'hui, ils sont moins nombreux, mais ils sont toujours là. Ce sont essentiellement les troupes de l'OTAN.
Et ils sont combien?
Alors, en permanence, ils sont 35 000. Donald Trump, lui, il a parlé de 52 000. Ça, c'est la fourchette haute. En général, lorsque des hommes sont de passage, c'est-à-dire qu'ils sont de retour ou sur le départ vers l'Afrique ou le Moyen-Orient, parce que c'est la base européenne vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais les effectifs constants, c'est 35 000 personnes. Ils sont là pour plusieurs années et avec leur famille sur une vingtaine de bases.
Alors pourquoi Brice Trump décide de retirer les militaires d'Allemagne là maintenant?
En fait, il y a beaucoup de désaccords entre Donald Trump et Angela Merkel. Il y a le dossier du nucléaire iranien, il y a la position qu'il faut adopter face à la Chine. Et puis Donald Trump a avancé deux autres arguments en début de semaine.
Germany's delinquent, they've been delinquent for years and they owe NATO.
L'Allemagne doit participer beaucoup plus au budget de l'OTAN, dit-il. Ils doivent des milliards à l'OTAN. Et puis, il évoque également les relations commerciales entre les deux pays. Il juge qu'elles ne sont pas équitables. Donald Trump fait souvent ça. Donc, il dit, nous allons retirer nos militaires qui gagnent bien leur vie, qui dépensent beaucoup d'argent en Allemagne et qui font vivre des villes et des régions entières. Donc, il met la pression sur Berlin en annonçant le retrait des troupes. Alors, il y a cet aspect économique. Hein, 35 000 soldats avec leur famille, c'est vrai que ça fait une petite ville. Vous le disiez, Cyprien. Donc, économiquement, c'est pas rien. Juste pour vous donner une idée, moi, je suis allé sur la base américaine qui se trouve au Bahreïn, au Moyen-Orient. Il y a 5000 soldats américains là-bas. Il y a une rue juste devant la base qui est surnommée American Alley. Et là, vous trouvez toutes les boutiques que vous trouvez à Houston, à Chicago, à New York.
Et c'est bon, on mange des hamburgers.
Exactement, les restaurants, c'est McDonald's. Ce sont les franchises américaines. Vous trouvez des vêtements, les casquettes de baseball, de basket. Et puis les bars, ils diffusent du sport américain. Même dans les hôtels, les chambres, elles sont occupées par les militaires américains. Mais au-delà de cet aspect économique, ce qui inquiète le plus les Allemands, c'est que leur défense nationale, elle dépend essentiellement essentiellement énormément de l'OTAN, puisqu'on le sait, ça aussi c'est le fruit de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ils n'ont pas l'arme nucléaire et ils n'ont pas vraiment d'armée pour faire face aux autres puissances. Donc s'ils dépendent de l'OTAN, bah, ils dépendent du principal pays de l'OTAN, c'est les États-Unis, et ça Donald Trump évidemment il le sait.
Ouais, et puis en plus Donald Trump il a sa campagne électorale pour sa réélection, ça aussi ça joue, non, j'imagine.
Oui, parce qu'en termes de politique intérieure, ça fait quelques années aux États-Unis que de rapatrier les boys, vous savez, des militaires américains, les faire revenir à la maison, c'est bien vu par l'opinion publique. Et puis ça peut aussi représenter une économie parce qu'il y a énormément de militaires partout dans le monde, ça coûte très cher aux États-Unis. Donc voilà, il peut avec cette addition faire d'une pierre 3 voire même 4 coups Donald Trump.
Brice, on parle de l'Allemagne, mais ils sont dans d'autres pays européens.
Oui, c'est assez surprenant, mais il y a 12 000 militaires américains en Italie, il y en a plus de 8 000 au Royaume-Uni, plus de 3 000 en Espagne, ils sont aussi au Danemark.
Ils sont pas en France.
Alors si, il y en a une cinquantaine en France, mais ce sont les militaires qui assurent la sécurité, oui, notamment des ambassades ou des consulats.
Rien à voir,
il n'y a pas de base militaire américaine. Dans le reste du monde, ils sont 40 000 au Japon, 25 000 en Corée du Sud, donc 5 000 au Bahreïn, je vous le disais, et puis le Qatar, le Brésil, la Turquie, Djibouti, Cuba, l'Australie. Les bases c'est américaines, énorme. En fait, elles quadrillent le monde. Ça représente environ 200 000 militaires hors des frontières américaines et le budget, c'est 100 milliards d'euros par an. C'est colossal puisque c'est 2,5 fois, rien que pour ces militaires à l'étranger, 2,5 fois le budget des armées françaises.
Voilà, vous en savez beaucoup plus grâce à Brice Dugénie, notre grand reporter du service étranger. Il est 19h36, deuxième info pour briller au dîner. Dans un instant, à tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde. RTL Soir, jusqu'à 20h. L'info briller au dîner.
C'est la dernière fois, Cyprien.
Tout à fait, puisque nous serons l'été ce week-end et que nous allons passer à l'été. C'est les 4 saisons de Vivaldi, on change à chaque saison.
La deuxième info pour briller au dîner ce soir, c'est Stéphane. Avec Brice, et ça concerne les noms des rues.
Oui, on a beaucoup parlé, vous savez, ces derniers temps en France, de déboulonner des statues, de débaptiser des places, des rues. Eh bien, cette question, elle ne pourrait pas se poser au Japon, parce que dans la plupart des villes, eh bien, les rues n'ont pas de nom. Ça fonctionne là-bas uniquement avec des chiffres. D'abord, un code postal, puis un numéro d'arrondissement, un numéro de district, un numéro de pâté de maison, et enfin, le dernier numéro, c'est celui de la maison. Sauf que ce dernier numéro de la maison, il n'est pas attribué, comme chez nous, selon le sens de circulation de la rue, mais il est attribué au moment de la construction du bâtiment. Si c'est le 20e immeuble du pâté de maison, eh bien, il aura le numéro 20, etc. Donc, vous pouvez avoir côte à côte deux bâtiments, pas du tout construits à la même époque, et donc les numéros ne se suivent évidemment pas, ce qui rend la recherche d'une adresse un peu compliquée, parfois même pour les Japonais.
C'est un cauchemar pour les facteurs.
Ça doit être sacrément organisé l'histoire. Merci Brice pour cette deuxième info pour briller au dîner.
RTL. De la semaine.
Heure de la semaine à 8h20.
Le grand perdant de la semaine. Et cette semaine, Céline, vous êtes décidément sans pitié, hein, puisque vous attaquez à une bête déjà raillée, moquée, maltraitée depuis plus de 20 ans, la
par
Coupe
vous,
de
notamment.
La Ligue de football.
Oui, la Coupe de la Ligue et sa finale, le match, que dis-je, l'affiche tant attendue entre le PSG et Lyon.
Une nouvelle partie est sur le point de commencer.
Vous avez reconnu la voix?
Oui, c'est Pierre Fouras.
Eh bien oui, le Pierre Fouras, parce que selon les informations de nos confrères du Parisien, c'est à cause de lui que la finale ne devrait pas se jouer un samedi comme d'habitude, mais un vendredi, le 31 juillet, car le diffuseur France 2 ne veut pas se priver de son émission phare estivale du samedi soir. Fort Boyard, évidemment. Une petite relégation donc pour la finale de cette compétition. La dernière d'ailleurs, puisque rappelez-vous, en septembre dernier...
Adieu la Coupe de la Ligue, elle va disparaître dès la saison prochaine, la LFP vient de le voter.
Oh non.
Et si
c'était pourtant, Homer Simpson ça, non?
Exactement, pendant des années...
C'est pas un jeu, Cyprien, faut pas tout deviner.
Pendant des années, les présidents de la Ligue de football professionnel l'avaient défendu corps et âme, cette Coupe de la Ligue. Pour Nathalie Bois de la Tour ou Frédéric Terrier, c'était un événement incontournable.
Les joueurs l'attendent, nos partenaires également. C'est une entreprise qui marche très bien.
Pour une coupe en bois, pour une soucoupe, avouez que c'est pas mal quand même. C'est exceptionnel.
C'est formidable.
Soucoupe, c'est pas mal.
Formidable petite coupe partie trop vite après 25 saisons. Mais pour certains, c'est quand même un vrai soulagement, y compris à RTL. Petite réaction à l'antenne à l'annonce de sa disparition.
Qu'est-ce qu'on a pu s'ennuyer devant la Coupe de la Ligue?
Pour la musique, on sait pas trop. Ça va dépendre de la jauge de spectateurs autorisés à venir assister à cette finale. Pour l'instant, aucune certitude, évidemment, que le Stade de France soit plein.
Bien, moi, je connaissais la musique de Fort Boyard, mais pas du tout la musique de la Coupe de la Ligue.
C'est la preuve que peut-être que France 2 va prendre une bonne décision.
Ouais, c'est vrai.
Ah, voilà, ça valait bien le...
Le titre de loser de la semaine, signé Céline Landreau.
On défait le monde.
C'est l'heure du billet retour avec toute l'équipe. Sont le billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on parle moins aujourd'hui.
Et ce soir, on a voulu revenir sur les attaques de requins à La Réunion. Souvenez-vous, il y a 9 ans, c'était devenu un sujet récurrent. On vous en parlait très très régulièrement.
L'île de La Réunion, une nouvelle fois endeuillée par une attaque de requins.
Crise requin.
La colère gronde contre des requins.
La crise requin sera...
Les requins bulldogs, l'espèce la plus dangereuse.
Cette attaque de requins pour la seule année 2011, le sujet était devenu tellement récurrent que l'île de La Réunion a vu une partie des touristes la fuir. Bon alors depuis on en parle beaucoup moins, voire quasiment plus. Ça veut dire que c'est bon qu'il n'y a plus de requins ou il faut toujours faire attention Brice?
Alors oui, il est toujours dangereux de se baigner au hasard au large de l'île de La Réunion. Il y a toujours des requins, les requins tigres, les requins bulldogs, donc toujours des attaques. Mais attention, il faut quand même préciser qu'elles sont rares. L'année dernière, un surfeur et un pêcheur ont perdu la vie, mais globalement depuis 2011, l'année à laquelle vous faisiez référence, qui est l'année où on a commencé à parler de crise requin, globalement la situation s'améliore. Par exemple, 2018, aucune attaque. 2016, une attaque, mais pas de mort. Donc il y a quand même des motifs de satisfaction.
Et donc il s'est passé des choses?
Oui, d'abord il y a un arrêté préfectoral qui définit les lieux et les conditions d'autorisation de la baignade autour de l'île. On ne peut pas se baigner n'importe où et n'importe quand. Et puis il y a aussi la prévention qui a beaucoup progressé depuis 2011. Les observations ont permis par exemple d'établir que la période avril-mai avec le refroidissement de l'eau est la plus propice aux attaques. On a 2 fois plus de chances de se faire attaquer l'après-midi que le matin et encore plus de chances quand l'eau est trouble et agité. Le problème, c'est que ces conditions sont souvent les meilleures pour la pratique, notamment du surf. Alors, il y a une signalétique qui a été inventée, un drapeau spécifique avec un requin dessiné dessus. Le rouge signale qu'un squale a été vu récemment. Le orange, que les conditions sont réunies. Justement, elles sont propices à la présence, voire l'attaque d'un requin. Et puis enfin, il y a la préfecture, les autorités qui appellent régulièrement à la prudence, notamment pour les surfeurs, qui souvent ne pratiquent pas dans les zones autorisées, puisque évidemment les vagues, elles sont souvent ailleurs.
Et de mémoire, ils devaient pas aussi mettre des filets?
Alors si, des filets ont été mis en place pour permettre notamment la baignade sur l'île. C'est fiable. Mais d'abord, d'une part, ces filets, ils sont critiqués parce qu'ils tuent, vous le savez, des espèces protégées. Et puis d'autre part, l'entretien est très coûteux. Faut notamment les retirer lorsqu'il y a de fortes houles pour pas qu'ils s'abîment, pas qu'ils se déchirent. Et puis, vous ne pouvez pas entourer toute l'île de filets parce que c'est très cher. Donc, évidemment, ça aussi, ça a ses limites.
Et puis, Brice, il y a ce qu'on appelle pudiquement le prélèvement, c'est-à-dire la pêche.
Oui, lorsqu'un requin est signalé au large de l'île, qu'il est repéré par les autorités maritimes, eh bien la préfecture autorise ce qu'on appelle le prélèvement en fait préventif pour éviter que ce requin propage une attaque. Depuis le début de l'année, plusieurs dizaines ont été pêchées au large de La Réunion, dont un de plus de 4 mètres quand même. Mais attention, là encore, les écologistes dénoncent une pêche disproportionnée. En fait, ils disent et ils mettent en avant le fait que certains pêcheurs ou certains surfeurs ne respectent pas forcément les réglementations dont on parlait sur la baignade. Et selon eux, la pêche est disproportionnée, injustifiée au regard du nombre d'attaques. Et c'est cette disproportion qu'ils dénoncent entre le nombre de requins tués et le risque réel qu'ils représentent au regard du nombre d'attaques qui, d'année en année, est de moins en moins important.
Voilà, billet retour qui nous passionnait avec Cyprien sur ce sujet-là.
On a eu des débats en antenne.
C'est une belle occasion de saluer,
tous
ceux qui nous écoutent depuis La Réunion, sur RTL Réunion en particulier.
On les salue.
On les salue. 19h47, restez bien là. Le président du jury, surtout, est à l'écoute pour la troisième info pour briller au dîner. À tout de suite.
Non. RTL Soir, on défait le monde.
Nos.fr.
RTL Soir jusqu'à 20h. L'info pour briller au dîner.
Avec le président du jury qui vient de m'envoyer un SMS, les amis, pour me dire je suis à l'écoute. C'est la troisième de ce soir et c'est Cyprien.
S'il vient d'arriver, on n'a aucune chance de gagner.
Il parle de musique, Cyprien.
Oui, la fête de la musique. Alors forcément, cette année, elle sera un peu particulière. Hein, crise sanitaire oblige. Ça nous évitera d'ailleurs peut-être quelques reprises malheureuses de Stairway to Heaven ou de Redemption Song. Bref. Alors si je vous demande qui a inventé la fête de la musique, bah, évidemment, vous me dites Jack Lang, le monsieur qui squatte tous les plateaux télé-radio tous les 21 juin.
Ce matin, pour la fête de la musique, Jack Lang.
On écoute, monsieur Jack Lang.
Voilà, nous allons maintenant rejoindre en direct au ministère de la Culture à Jack Lang.
Jack Lang, bonjour.
Bonjour. Mais oui, depuis 1982, il fait le malin, Jack Lang.
Des centaines de milliers de Français seront dehors avec leurs instruments de musique, sans complexe, pour célébrer la naissance de l'été.
Sauf qu'en fait, c'est pas du tout lui qui a inventé la fête de la musique. Eh oui, c'est même pas lui qui en a eu l'idée. Non, c'est un musicien américain installé en France, un certain Joel Cohen, un luthier.
C'est tout.
Eh bien, merci.
Formidable.
Alors, je vous rajouterai juste que le 21 juin 76, Joël Cohen, il a réussi à faire une fête de la musique dans l'Ouest parisien et à Toulouse. Et Jack n'a fait que récupérer l'idée. Il lui a quand même rendu hommage en 2015. Mauvais tard que jamais.
On est sympa, on vous a laissé du temps supplémentaire.
Oui, comme d'habitude.
Ouais, j'espère que le président du jury.
On tiendra compte.
Non, justement, on s'arrêtera au gong.
Absolument.
Disqualification.
19h.
Il s'arrêtera même au début, en fait.
C'est scandaleux.
Oh, mais c'est l'instant trop mignon.
Arrêtez tout, après avoir définitivement enterré cette pauvre coupe de la Ligue qui avait rien demandé, elle va tenter de compenser en montrant qu'elle est aussi capable de tendresse et de compassion en nous contant l'histoire la plus craquante de la semaine. Céline, nous sommes toutes ouïes.
Et cette semaine, je vous parle des chats qui vont peut-être sauver le cinéma indépendant. Si, si, c'est très
sérieux.
Ça marche
toujours, les chats.
Tout ça grâce au Quarantine Cat Film Festival, un festival un peu particulier qui propose de visionner en ligne un film de 75 minutes avec comme acteur pas moins de 130 chats du monde entier. En fait, c'est une compilation de plus de 1200 vidéos de chats tournées pendant le confinement. Alors, c'est surtout visuel, mais là, par exemple, vous entendez la vidéo du chat qui court comme un hamster dans le tambour de la machine à laver.
C'est vrai que ça a l'air très visuel.
Et ses maîtres qui gloussent, voilà, on est d'accord. Les vidéos de chat, c'est souvent mignon. Pour profiter donc de cette heure et quart de vidéos de chat, il suffit d'aller sur un site internet, c'est rawhouse.online. La place pour la séance, c'est 12$. Bah oui, une heure et quart de chat, quand même, ça a un prix. Et la moitié de cette somme sera reversée au cinéma de votre choix. C'est pour ça qu'on vous disait que c'était une initiative pour aider donc le cinéma indépendant.
Vous nous redonnez s'il vous plaît le nom du site.
Bien sûr, c'est Rawhouse, donc Rawhouse. Online, O-N-L-I-N-E.
C'est vraiment parce que c'est pour le cinéma.
75 minutes, ce film sur des chats.
Ouais. Je sais que ça cartonne sur Internet.
Oui, mais chaque fois, parce que c'est gratuit.
Et parce que c'est court. Non,
oui, c'est vrai. Une heure et quart de chat à 12$. Je suis pas sûr. Hein.
19h52.
Et moi, le prodomètre.
On ne garde ni le masque, ni la culotte.
Je pose la question en 30 minutes.
Le baromètre, le prodomètre, le baromètre avec du Pascal Pro dedans. Alors, quels sont les sujets qui ont le plus fait appeler cette semaine au 32-10?
Attention, on surveille.
La manifestation des soignants, peut-être.
Oui, effectivement, ça fait partie des sujets qui ont fortement marché au 32-10. Une autre idée, à votre avis?
Dijon.
Dijon. Oui. Également, aussi, les scènes de tension, les violences à Dijon.
Brice, les statues déboulonnées, les rues rebaptisées.
Ouais, mais il y a un autre top qui a super bien marché. C'était vraiment impressionnant, ça s'est passé ce midi. Un indice avec le jingle, vous avez entendu?
Les gens qui attendaient ont défait le monde?
Non. Les discothèques.
Voilà, on a vraiment eu une vague d'appels pour demander la rouverture des discothèques, autoriser les thés dansants. Pour vous dire, nous n'avons traité que ce sujet pendant une heure. Emmanuel Macron doit-il maintenir Édouard Philippe au poste de Premier ministre? Rien du tout. L'affaire Fillon, rien du tout. Et du coup, ça fait réagir Mathieu, qui est gérant d'une discothèque dans le département de la Manche. Il est en colère et il souhaite évidemment que les établissements rouvrent plus vite.
C'est un non-sens par rapport à ce qu'on peut voir actuellement et ce qui se passe actuellement en France. Ils pensent avoir résolu l'affaire en nous fermant, disant « bon, bah, effectivement, on est dans un milieu confiné, c'est compliqué ». Et toute cette population qui ne va pas en discothèque actuellement va dans les bars. Et donc, effectivement, la prolifération par exemple, du Covid se fera tout autant, mais pas dans les boîtes de nuit, mais dans les bars.
Et autre top de la semaine, que représente pour vous l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle? Là aussi une émission spéciale.
Voilà, ça a marché très fort évidemment, c'est 32-10 tout au long de la semaine du lundi au vendredi pour échanger, pour dialoguer sur...
C'est de la super présentation, ça va Bruno?
Ça va très très bien Stéphane, ça va très très bien. Alors je tiens à dire que j'ai bien écouté les trois infos.
Ah,
du premier déjà. Voyageur en 1914 dans un hydravion qui a fait 45 km... aux rues compagnons au Japon et au véritable inventeur de la fête de la musique.
Bravo.
Mais c'est vrai que, in fine, si je dois choisir quelqu'un, je prendrai l'info de Cyprien sur la victoire de la musique.
Ah.
C'est vrai que, alors, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais pour une fois, je n'ai pas d'étudiants qui vont gémir en bas de ma fenêtre en chantant mal Wonderwall d'Oasis et en hurlant. Donc voilà, je vais partir là-dessus.
Ah, je suis ravi, merci Bruno.
C'est une erreur, mais nous le comprenons.
Bon, c'était un bonheur. Du coup, vous allez bien dormir pour la matinale de fun lundi matin, donc tout ira bien par rapport à cette fête de la musique.
Là, oui. Là, le vendredi, comme je ne me lève pas le samedi matin, c'est le moment où je fais une soirée de folie. En général, je me couche rarement avant 22h.
Et en plus, à la rentrée, on vous retrouve chez nous sur RTL.
Ouais, ça c'est vraiment un kiff d'enfant qui se réalise. Je serai à partir du 24 août tous les matins après Julien Courbet entre 11h30 et midi et demi sur RTL. J'arrive en L1, j'ai l'impression. Hein, j'arrive en L1.
Ouais, bienvenue.
T'en souhaites pas vous blesser quand même.
Oui, non, promis, je ferai pas une Neymar.
Ah, il est costaud, il est costaud le bonhomme. Merci.
Non, je soutiens l'Olympique de Marseille. Donc.
Ah non, c'est pas possible, ça fait trop ça. Ah,
ouais. Je viens pour l'étoile, je viens pour l'étoile.
Et on rappelle la bonne nouvelle d'ailleurs, l'OM qui n'a compté que de 3 millions d'euros.
On est en train de faire des auditeurs. Non, c'est pas vrai.
À bientôt Bruno, merci, c'était un plaisir.
Merci.
Salut Bruno. Président du jury de ce soir.
Et on fait un gros bisou à Georges Benadi, notre monsieur cadeau.
Absolument.
Qui a permis à notre auditrice Christine de faire ce soir élastique. Voilà.
Formidable.
Que ce soit dit.
À vendredi prochain, les amis, ce sera numéro 42.
À la semaine prochaine.
Avant-dernière de la saison.
Dis donc.
L'actu dans un instant.